Bonjour. En parcourant la presse aujourd'hui, vous êtes tombé au milieu des titres menaçants et des catastrophes annoncées sur un dossier qui vous fait du bien et je vous lis en essayant de sourire.
Comment cultiver la bonne humeur ? C'est Philosophie Magazine qui pose cette question sur une couverture jaune vif qui perce la grisaille ambiante. La réponse est moins évidente que ne le croyait le fameux Émile Coué, pharmacien à Troyes et inventeur de la méthode du même nom. Mais voilà, l'humeur ne se décrète pas. Contrairement aux émotions, elle ne naît pas d'un événement particulier, ne se manifeste pas par un rire ou des larmes. Elle apparaît, on ne sait trop comment, flotte silencieusement, colore l'atmosphère, puis s'évanouit. D'un côté, elle dépend de nous, de notre état d'esprit, de notre manière de regarder les choses et les gens. De l'autre, elle émerge d'une ambiance et dépend d'autrui. C'est dire qu'en ce moment, la bonne humeur est un exploit.
Est-ce que Philosophie Magazine apporte au moins des solutions, des recettes pour que la bonne humeur nous gagne ?
Des idées philosophiques, comme il se doit, mais pas seulement. Nietzsche vantait la faculté d'oubli, Heidegger prônait le changement d'atmosphère, Spinoza faisait l'éloge de la puissance d'agir, c'est-à-dire le travail, et Madame de Staël louait le plaisir de la conversation. On trouve plein d'autres références dans ce numéro de Philosophie Magazine, qui interroge aussi un endocrinologue, un neuropsychologue et une psychanalyste, dont les avis divergent, mais vous convaincront que la bonne humeur est une affaire trop sérieuse pour la laisser aux autres. Au passage, j'ai cueilli dans ce numéro cette citation d'Alain. « Si j'avais par aventure à écrire un traité de morale, je mettrais la bonne humeur au premier rang des devoirs. »
Puis il y a le chocolat aussi, c'est quand même quelque chose...
Je l'inscris sur mes tablettes.
Qui met de... Oh, je dis, malgré les menaces... Bon alors je reprends parce que là c'est sérieux. Malgré les menaces de mort, la dessinatrice Coco garde, si on peut dire, sa bonne humeur. Elle se confie à l'hebdomadaire Le Point.
Elle est une des rescapées de l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015. Un dessin d'humour noir sur Gaza, publié le 11 mars dans Libération, a refait de Coco une cible. « Je ne me laisserai pas intimider », proclame-t-elle. L'article est à lire sur le site du Point. Elle défend la liberté de dessiner contre l'obscurantisme et aussi contre la censure. « Un dessin ne blesse personne », dit-elle, « quand bien même il appuie ou ça fait mal. Ce sont les armes qui blessent et qui tuent. » Est-elle devenue un symbole ? Être un symbole, ce serait comme flotter dans un costume trop grand pour moi, répond Coco. La protection policière, je m'y suis adapté car j'ai toujours considéré que ma liberté était surtout dans ma tête. J'essaie surtout de faire mon travail, de me marrer avec l'actualité, de réfléchir, de transcender la gravité.
Et de la gravité, il y en a partout, presque en une des journaux ce matin.
C'est en effet le branle-bas de combat et sur deux fronts, face à la menace terroriste, la France en alerte, titre Le Parisien, en alerte maximale, ajoute même La Voix du Nord, Le Télégramme de Brest et Le Figaro, qui souligne qu'à 4 mois des Jeux Olympiques, l'attentat de Moscou pousse le gouvernement à déployer des moyens exceptionnels partout sur le territoire. Avec les déficits publics, ça ne va pas mieux, c'est l'autre front. La France, mauvais élève de l'Europe, le même titre est en une de West France et des Échos ce matin. Libération en profite pour militer aussitôt pour la taxation des plus riches face à ce que le journal appelle l'entêtement du chef de l'État qui, on le sait, ne veut pas augmenter les impôts. Le journal Libération publie un sondage d'où il ressort que pour 45% des Français, réduire la dette et les déficits n'est pas prioritaire. On peut donc rester d'humeur légère.
Bah si 45% des Français l'ont dit. Le quotidien L'Opinion fait la synthèse des malheurs du moment. Selon lui, voilà les Français projetés dans le chaos global.
Les couches de peur se superposent. L'inflation, la situation au Proche-Orient, l'insécurité, le mur de la dette, les attentats. Le pays vit sous tension permanente, écrit L'Opinion. Il faut aussi évoquer l'imminence des Jeux Olympiques, l'angoissante campagne américaine, l'essor des fake news. Une députée Renaissance souligne aussi dans le journal « L'attentat de Moscou montre que l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami. » Et le président de la République ajoute à tout cela « La complexité du monde », souligne L'Opinion, façon courtoise d'évoquer les discours parfois abscons du chef de l'État. D'où cette question. Que produit l'addition peur plus incompréhension ? La peur est un sentiment conservateur, écrit L'Opinion. Elle pétrifie, décourage la prise de risque. Mais garde-t-on sa confiance à un leader que l'on ne comprend pas ? Voilà qui risque de ne pas mettre Emmanuel Macron de bonne humeur.
Lui doit être très heureux. Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal, est élu hier à la surprise générale.
C'est en effet l'homme du jour. On aperçoit son visage juvénile en une de Libération et des Échos. À 44 ans, il est le plus jeune dirigeant élu d'Afrique, élu sur un programme anti-système. À l'annonce de sa victoire, Dakar a explosé de joie comme au coup de sifflet d'une finale de Coupe du Monde de football, décrit Libération. La Croix raconte comment cet inspecteur des impôts passionné d'arts martiaux s'est enrôlé en 2014 derrière Ousmane Sonko, l'opposant numéro 1 au président sortant Macky Sall, et comment, après avoir passé 11 mois en prison, il est devenu le plan B et l'alternative tranquille au Sénégal. Il veut abandonner le franc CFA au profit d'une nouvelle monnaie africaine et renégocier la plupart des accords entre le Sénégal et la France. Ce n'est pas en France, en tout cas, qu'on élirait un ancien agent du fisc à la tête de l'État.
On termine avec une étonnante série. Depuis le début de l'année, les découvertes d'épaves englouties se multiplient.
C'est le site Slate.fr qui s'en fait l'écho d'après un article du New York Times. Le mois dernier au Canada, on a retrouvé les restes d'un navire du 19e siècle. Il y a 15 jours en Grèce, on a remonté 10 épaves datant de 3000 avant Jésus-Christ du fond de la mer Égée. Selon les experts, cet enchaînement n'est pas tout à fait un hasard. On le doit au développement de robots sous-marins plus autonomes et moins chers, à la numérisation des archives qui facilite la localisation des épaves, et aussi, figurez-vous, au dérèglement climatique qui fait monter le niveau des océans. D'un autre côté, l'UNESCO impute aux États le devoir de protéger leur patrimoine sous-marin depuis 2001, ce qui a transformé les courses au trésor, avec leur lot de procès-fleuves où on se disputait le butin, en expédition à vocation scientifique et archéologique. Ça fait moins rêver, mais préférer la connaissance à la fortune, ça peut aussi mettre le monde de bonne humeur.
Et si on peut avoir les deux, c'est encore mieux. La connaissance
je
et
vous reconnais bien
la fortune, bah oui, pourquoi s'en contenter de seulement la moitié. Merci Hervé Gattegno, à demain. La lecture des journaux. Dans un instant, nos esprits libres sont Lucie Robquin des Échos et Christophe Barbier de chez Christophe Barbier. Il est 8h40 sur Radio Classique.